RCFM, Binti Minoudi, l'émission politique.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue donc dans Binti Minoudi, le rendez-vous politique de RCFM. Ce soir, notre invité, Jean-Guy Talamone, le président de l'Assemblée de Corse. Bonsoir, Jean-Guy Talamone.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Une fois n'est pas coutume, nous ne proposerons pas de dossier ce soir. 20 minutes, c'est finalement assez court. Il y a quand même beaucoup de choses à dire, beaucoup de sujets d'actualité. Alors, on va commencer tout de suite par un sujet, si j'osais, brûlant en ce début de saison. C'est celui des autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime. La tension est montée d'un cran ce week-end. Certains exploitants de paillotes ont décidé de passer outre des interdictions. Dès lundi, du coup, des contrôles de gendarmerie, saisies de matériel, des actions quasi quotidiennes de certains paillotiers. Ils en appellent d'ailleurs à votre arbitrage, à celui de la collectivité. On ne vous a pas vraiment entendu. Jean-Guy Talamone, sur ce sujet, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces exploitants de paillotes?
Bien, d'abord, et ils le savent, nous sommes extrêmement sensibles au mouvement qui est le leur et qui, aujourd'hui, est largement compris et par la classe politique et par les Corses. Un récent sondage a montré que 68% des Corses déclaraient soutenir le mouvement de ces professionnels qui sont aujourd'hui en difficulté. Alors, en difficulté, simplement parce qu'ils nourrissent un sentiment d'injustice qui est tout à fait compréhensible, compte tenu de la façon dont les AOT ont été délivrés dans certains cas et refusés dans d'autres par la préfecture. Et nous avons pointé cette difficulté avec la préfète, à l'occasion d'une réunion qui ne s'était pas tellement bien terminée, qui n'a pas eu d'ailleurs de suite, compte tenu de l'ambiance et des positions respectives. Nous avons dit simplement qu'il y avait une difficulté, qu'il fallait entrer dans une situation transitoire et qu'il fallait, à un moment donné, bien sûr, sans doute rejeter certaines AOT et en accepter d'autres, mais sur des critères lisibles par tout le monde.
Ça n'est pas le cas. Sur ce sujet, la préfète dit justement, enfin en tout cas elle affirme qu'elle a écrit des courriers au président d'exécutif, notamment depuis 6 mois, qui sont restés lettres mortes. Est-ce que c'est pas un peu facile, je dirais, de rejeter la faute sur l'État?
Alors, écoutez, nous, ce que nous demandons, et nous l'avons proposé, il y a eu des courriers dans les deux sens. Je crois savoir d'ailleurs que sur la chronologie des courriers, le président du Conseil exécutif n'est absolument pas d'accord avec la préfète, mais il s'en expliquera sans doute. Moi, j'ai participé à des réunions, je crois que c'est au moins aussi parlant que des courriers. Et à l'occasion notamment de la dernière réunion, il a été très, très clair que la préfecture ne souhaitait aucunement justifier les refus d'AOT. Qu'elle ne souhaitait nullement donner des critères lisibles pour refuser ou accepter les AOT. Et ça, je veux dire, c'est la base. La base, c'est bien entendu d'écarter toute notion d'arbitraire. Et en l'espèce, d'ailleurs, le sondage auquel je faisais référence le montre à suffisance, chacun a conscience de ce qu'il y a eu de poids et de mesure. Et on voit très bien que cela est d'ailleurs...
Des abus, bien entendu,
d'ailleurs, que personne ne cautionnerait, que le collectif des paillotiers non plus ne cautionne pas, puisqu'il y a une charte qui a été établie. Nous avons demandé que cette charte soit très restrictive, de plus en plus restrictive, que des efforts soient faits dans la période intermédiaire, c'est-à-dire celle qui nous sépare de la révision normale du PADUC, parce que pour nous, notre attachement au PADUC est intact et il est nullement question de le réviser dans l'urgence des événements. Il y a une procédure de révision qui est prévue dans 2 ans et nous voulons nous en tenir à cela. Dans l'attente, il faut gérer la situation transitoire et il faut le faire dans la justice.
Comment on gère cette situation transitoire? Parce que quand on entend Jacqueline Gourault dire, par exemple, en réponse à Paul-André Colombagne, une question du député Paul-André Colombagne, on pourrait discuter sur le moyen, sur le long terme, mais cet été, on discutera pas. Écoutez, comment est-ce qu'on désamorce une situation qui est un peu explosive, quoi?
Écoutez, nous, pour notre part, nous avons fait des propositions précises, d'ailleurs, par la plume du président du Conseil exécutif, mais qui, bien entendu, faisait état d'une position partagée par l'ensemble de notre majorité. Nous avons beaucoup discuté en amont sur la façon de présenter les choses de la manière la plus conciliante possible, mais en même temps, en ne cédant pas sur les principes essentiels. Le principe essentiel, c'est notre attachement au PADUC et le refus de le modifier dans l'urgence, parce qu'à ce moment-là, ça voudrait dire qu'il n'y a plus de PADUC, finalement. Autre principe, c'est de définir des critères publics et acceptés par tous pour refuser ou accepter les AOT. Il y en a qu'il faut refuser, de toute évidence. Mmh. Mais là, on est tout à fait dans le fil de ceux que nous avons connus maintenant depuis pas mal de temps. Je vous rappelle que nous avons rendu public, il y a de nombreux mois, un document émanant de la directe sur les contrôles et avec mention express mouvance nationaliste, ce qui veut dire que l'administration d'État fait des contrôles sur des des bases qui sont politiques, et cela ne peut pas être nié, parce que nous avons fourni les preuves, y compris publiquement. Donc je veux dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans la même démarche. On voit bien que parmi ceux dont les AOT ont été rejetés, il y a beaucoup de personnes qui sont censées être des sympathisants nationalistes, des militants nationalistes, ou des enfants de militants nationalistes, parce qu'ici, il y a même une responsabilité familiale qui est en train de se mettre en place. Donc, je veux dire qu'aujourd'hui, la position de l'État est absolument indéfendable. Et nous n'allons certainement pas en être solidaires.
Quand on entend certains paillotiers dire que ils pourront pas nourrir leurs enfants, est-ce que c'est pas un peu indécent dans une île où une grande partie de la population est en dessous ou à peine au-dessus du seuil de pauvreté, et qu'on peut imaginer, même si effectivement ces établissements ne publient pas leurs comptes, que les bénéfices sont relativement confortables en fin de saison?
Alors, ils ne publient pas leurs comptes, là je vous attentif au fait qu'un certain nombre d'entre eux ont publié des comptes, et même certains qui ont été accusés de ne pas le faire. Bon, je ne vais pas rentrer dans les cas particuliers, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement il y a un certain nombre de familles corses qui ne roulent pas nécessairement sur l'or, qui vivent de ce type d'exploitation. Et il y en a d'autres qui ont fait n'importe quoi. Ceux-là, ils ne seront défendus par personne, en tout cas pas par nous. Mais ceux qui vivent depuis des dizaines d'années dans des exploitations qui ont globalement été correctement menées, de les mettre en difficulté en les empêchant de continuer leur exploitation commerciale. Effectivement, ça les met en difficulté financière, mais quel est le but à terme? Moi, je pense sincèrement que là, on a déjà préparé la seconde séquence, et la seconde séquence, c'est quoi? C'est au moment où les concessions vont être délivrées par les municipalités, eh bien, des positionnements de grandes multinationales, ça n'est pas abstrait, c'est très concret. Il y a la plage Veolia à La Baule, demain, il y aura peut-être la plage Veolia à Palombage. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous ferons tout ce qui est en notre possibilité pour nous opposer à ce type de dérive.
Donc, il ne faut pas que les maires aient la main sur le domaine public maritime, parce que les pressions pourraient être trop importantes pour les élus locaux.
Nous, ce que nous voulons, c'est que l'on ne remplace pas les familles corses qui sont aujourd'hui à la tête d'établissements qui sont menés correctement. Je ne parle pas des autres, je parle de ceux qui font leurs affaires normalement. Et nous ne voulons pas que ces familles corses soient remplacées par des multinationales. Or, manifestement, les perspectives de l'État en Corse, c'est l'introduction des multinationales. Et nous ne sommes pas d'accord. Qu'il s'agisse d'ailleurs de ce domaine comme des autres. Et je répète, et parce que c'est très important, notre attachement au PADUC, et il est nullement question pour notre part de reculer à cet égard.
Alors, attachement au PADUC, dans l'opposition de droite, clairement, on veut le réviser le plus vite possible.
Bien sûr.
Vous dites, bon, mais pas tout de suite.
C'est tout à fait dans leur logique, mais je la respecte.
Mais quand même, une révision est envisageable pour vous, et dans quelle mesure, si elle est envisageable?
Alors, pour nous, le respect du PADUC, c'est le respect de la procédure de révision qui est prévue par le dit PADUC, c'est-à-dire que dans 2 ans, on pourra éventuellement parler de certains ajustements. Bon, il y a, sur la question notamment des établissements de plage, il y a des différences d'interprétation sur le plan juridique. D'ailleurs, il y a des jugements contradictoires, il y a eu des décisions judiciaires contradictoires entre le tribunal administratif, la cour administrative d'appel, c'est-à-dire qu'il y a un débat juridique. Ce débat juridique, nous pourrons l'avoir, et nous pourrons demain envisager des ajustements s'ils sont nécessaires. Encore une fois, nous devons le faire dans une situation calme et avec toute la méthode qui s'impose et dans le cadre du PADUC lui-même et de ce qu'il a prévu comme procédure. Donc nous, dans ce cas-là, effectivement, nous pouvons être ouverts à certains ajustements, encore une fois, dans 2 ans, et des ajustements dont il faudra prouver l'opportunité. S'agissant de la philosophie du PADUC, et c'est là où nous sommes en confrontation totale avec notamment les élus de droite qui réclament non pas des ajustements.
Il n'y a pas d'un côté le gardien du temple et de l'autre les élus soumis aux puissances de l'argent.
Sauf qu'il y a quand même deux logiques qui correspondent à deux PADUC différents. Le PADUC de 2008 de M. Santini et de M. Rocazera, et le PADUC qui a été ensuite adopté
résidentiel et présentiel,
c'est-à-dire simplement la terre corse mise à l'encan. Et nous serons toujours hostiles à cette stratégie. Et aujourd'hui, nous sommes hostiles à cette stratégie fort de la majorité absolue que nous ont donné les électeurs en 2017. Et je veux dire qu'aujourd'hui, c'est notre stratégie qui a été validée par les électeurs corses, et il est tout à fait normal que l'opposition puisse défendre une autre logique, c'est-à-dire celle, la logique de l'ancien PADUC qui n'était même pas arrivé jusqu'à l'Assemblée de Corse parce qu'il avait finalement été retiré tant ce PADUC était absolument insupportable. Donc, il y a effectivement la logique de l'économie dite présentielle, qui est en fait la part belle à la spéculation immobilière. Il y a une logique de développement dans la protection du patrimoine naturel, parce qu'il faut il faut un équilibre, et cet équilibre, je crois que globalement, philosophiquement, c'est l'équilibre du PADUC, en tout cas c'est ce que nous soutenons. Maintenant, ce qu'il y a de certain, c'est que tant que notre majorité sera en place, eh bien ne changera pas de philosophie, ça c'est clair. En revanche, des ajustements, s'il y a eu des erreurs dans le PADUC précédent, bien sûr qu'on peut y réfléchir. Mais encore une fois, que l'on n'attende pas de nous, que nous renoncions aux orientations majeures du PADUC, qui est un PADUC protecteur et qui permet en même temps le développement. C'est toute la problématique.
Bintiminoudi, l'émission politique.
Maintenant qu'on aborde les relations de la collectivité avec l'État, on a bien compris, et ses représentants, on a bien compris que c'était pas au beau fixe. Mais cette relation, vous la qualifiez comment aujourd'hui ? Tendue, inexistante, contre-productive, agressive ?
Alors, nous étions dans une situation de blocage, ce qui était déjà pas très bien. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on voudrait nous faire reculer sur les prérogatives qui sont légalement les nôtres. Aujourd'hui, c'est bien une régression institutionnelle que l'on voudrait faire subir à la Corse. Je donnerai simplement l'exemple de cette coordination des maires qui vient directement concurrencer la Chambre des territoires, qui, elle, a été installée par la loi. Ce n'est pas nous qui l'avons installée, c'est la loi. Donc, il y a cette démarche illégale et qui vient...
Oui, en fait, clairement, on vous contourne, là.
On nous contourne, ce qui est absolument inacceptable compte tenu du fait que les seules autorités issues du suffrage universel en Corse, eh bien, ce sont c'est quand même notre majorité et les maires. Non mais d'accord, mais aujourd'hui, la préfecture qui veut que les maires ne travaillent pas non, avec la collectivité de Corse, mais avec simplement l'administration d'État, je veux dire, c'est une attitude qui est absolument insupportable. Il y a des
agressions. Ça contribue à faire monter les tensions dans la société insulaire.
Bien entendu, mais des tensions qui sont perceptibles dans tous les domaines. On a parlé tout à l'heure effectivement de la question des établissements de plage, on pourrait parler d'agriculture. Vous savez, on peut parler des déchets, mais vous savez, lorsqu'il y a des procédures judiciaires qui sont lancées, lorsque l'on dit aux uns que finalement s'ils sont poursuivis, c'est parce qu'ils ont été dénoncés par le syndicat concurrent, lorsque l'on dit... Vous savez, aujourd'hui, on est en train de créer les conditions pour un embrasement de la société corse, tandis que nous sommes pendant des années attachés à installer l'apaisement. On voit bien que cet apaisement aujourd'hui est menacé par l'irresponsabilité de l'État, des services de l'État en Corse.
Est-ce que c'est la seule cause, Jean-Guy Talamoni ? Est-ce que peut-être vous n'avez pas, au moment de votre élection, porté trop d'aspirations d'un coup, et qui crée aujourd'hui beaucoup de frustration dans une partie de l'électorat, ou une partie des Corses en tout cas ?
Écoutez, je ne peux pas nier que notre élection a suscité beaucoup d'espoir, parfois même, des espoirs...
Est-ce qu'il ne fallait pas être plus pragmatique à ce moment-là, et savoir qu'il y a des choses qui peut-être ne seraient pas faisables, et que
pragmatique, nous le sommes, parce que évidemment, il est normal que l'opposition cherche à justifier un certain nombre d'attaques, même si elles sont de mauvaise foi. Par exemple, lorsqu'on dit mais la majorité nationaliste ne s'est intéressée qu'aux questions institutionnelles et pas aux concrets. Et nous avons démontré que pour traiter les questions concrètes des Corses, c'est-à-dire la question du foncier, du logement, il fallait en passer par des évolutions institutionnelles. Il fallait notamment que nous ayons un certain nombre de leviers juridiques dont nous ne disposons pas aujourd'hui. Alors, c'est vrai que ce blocage de l'État qui dure maintenant depuis fort longtemps est extrêmement déplaisant. Mais vous savez, en filigrane, il y a encore pire que ça. Il y a simplement qu'on semble dire aux Corses, voilà, vous avez mal voté. Et parce que vous avez mal voté, eh bien, tant que vous aurez ces élus, vous n'obtiendrez rien. Or, nous avons besoin des moyens juridiques pour faire avancer ce pays.
Parce qu'il y a peut-être des Corses aussi qui voient que certains dossiers n'avancent pas. Sur les déchets, depuis 2015, on n'a pas vraiment, vraiment bougé. Vous, par exemple, personnellement, je dirais, vous portez un dossier important qui est celui de la charte de l'emploi local, en tout cas qui vous tient à cœur.
Oui, tout à fait.
Ça n'avance pas vraiment, en fait. Depuis 4 ans, vous le portez à bout de bras et vous êtes un peu tout seul quand même.
Alors, non, tout seul, certainement pas, parce que j'ai bénéficié du soutien des principaux syndicats de Lille, notamment du principal syndicat de Lille qui est le STC. Je citerai également la CFDT parce que ça fait des dizaines d'années aussi qu'elle défend également la corsisation des emplois. J'ai bénéficié du soutien de toutes les assemblées consulaires, Et effectivement, il faut passer à une autre phase et c'est la raison pour laquelle il y a quelques jours, l'Assemblée de Corse a voté donc dans le sens de cette charte de manière à passer à une seconde étape. Nous avons dit, pour notre part, au titre de Corsica Libre, au titre de l'exécutif du mouvement, mais également, je l'ai dit moi-même dans la presse, qu'il fallait maintenant passer à une seconde phase pour mettre en œuvre véritablement les fondamentaux d'abord du nationalisme, donc que chacun connaît.
Mais vous ne pouvez pas obliger, par exemple, la justice sociale libre de son recrutement.
Mais la charte, il n'y a pas de... Et ça n'est pas une limite, c'est une possibilité qui est offerte de négociation entre les acteurs à l'intérieur d'une entreprise. Cette charte, comment peut-elle avoir un caractère contraignant demain ? Eh bien, aujourd'hui, c'est une base. Elle aura un caractère contraignant dans une entreprise à partir du moment où la direction négociera avec le syndicat. Alors, si ce syndicat, c'est le STC ou la CFDT, effectivement, il va y avoir une négociation extrêmement forte. Et puis ensuite, il y aura un texte qui sera peut-être pas tout à fait le texte d'ailleurs que nous avons élaboré jusqu'à maintenant, qui est une bonne base, mais qui peut être modifiée. Mais ensuite, effectivement, s'il y a un accord d'entreprise, eh bien, il s'imposera à la direction et il s'imposera à l'ensemble des partenaires.
On a l'impression que dans la majorité, il y a ceux qui veulent aller plus vite, ceux qui veulent un peu ralentir.
Je ne crois pas. Vous savez, on a eu à faire face et moi, je suis d'autant plus à l'aise pour vous répondre sur ce registre que j'ai moi-même exigé un certain nombre de choses et Corsica Libera l'a fait de son côté, à savoir que maintenant, on passe à la mise en œuvre des fondamentaux, je disais, du nationalisme et de la justice sociale, parce que c'est tout à fait impossible de concevoir les uns et sans les autres. Donc, ces fondamentaux doivent être mis en œuvre. Depuis que nous sommes intervenus dans la presse et évidemment donc dans des réunions internes, il y a eu un grand nombre de discussions au sein de la majorité, notamment de la coordination Perragour-Siga, et nous avons avancé. C'est la raison pour laquelle, vous avez vu, nous avons avancé sur la question du fonds de solidarité que j'ai porté, mais qui aujourd'hui a été validé à l'unanimité donc de l'Assemblée de Corse. Nous avons avancé sur la charte, puisque là aussi il y a eu un vote. Nous avançons,
avancées institutionnelles, encore
non,
une
non,
fois.
Mais, non, pas ainsi, que... non mais attendez, il faut évidemment respecter les phases. S'agissant du fonds social de solidarité, qu'on va appeler dorénavant Corsica Solidaria, c'est du mécénat à un haut niveau, je dis y compris sur le plan quantitatif, puisque nous avons déjà commencé des discussions avec de grandes sociétés. Donc c'est du mécénat, mais qui répond à des besoins d'intérêt public, c'est-à-dire là, l'inclusion sociale. Ça sera en place, normalement selon le calendrier que nous avons fixé, à partir de la rentrée prochaine. Bon, je crois quand même que pour quelque chose qui est né il y a seulement 3 ou 4 mois, nous avons travaillé à un rythme assez soutenu avec l'ensemble des présidents de groupe, y compris ceux de l'opposition, en allant, je dirais, main dans la main, dans le même sens qui est celui, évidemment, d'aider les Corses qui en ont le plus besoin dans une situation sociale extrêmement dégradée. Donc je crois que, s'agissant d'un dossier comme celui-là, il a été porté avec, je crois, une relative célérité. Maintenant, cela dit, il y a de nombreuses choses qui restent à faire. Il y a eu entre-temps la fusion des 3 collectivités, ça a posé un certain nombre de problèmes, ça continue à en poser. Il y a eu l'attitude de l'État totalement fermée, non seulement n'a pas voulu nous donner les moyens dont nous avons besoin sur le plan juridique, mais sur la question financière a été extrêmement déloyal. L'État, qui est revenu sur les engagements du gouvernement précédent, ce qui est incroyable, parce qu'il n'y a plus de continuité de l'État. Les engagements du gouvernement Valls ont été reniés par le gouvernement suivant. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on ne peut pas admettre. Donc, je crois vraiment que l'État porte une lourde responsabilité, et nous, il n'est pas question de nous exonérer de la nôtre, mais il est question simplement de dire que si l'État ne change pas de position, eh bien, je crois que véritablement, la société corse aura du mal à avancer.
20 minutes, l'émission politique.
Politique, justement, au sein de la majorité, donc a priori le contrat de mandature est respecté, au sein de la majorité.
Il est respecté.
Si on se décale d'un tout petit pas de la majorité, le mouvement Corinne Front marche un peu sur vos plates-bandes, avec l'avantage pour lui peut-être d'être aujourd'hui dans une opposition, en fait, une position sans doute plus confortable que la vôtre aujourd'hui. Vous craignez une concurrence? Vous êtes prêt à discuter avec eux? Comment est-ce que...
D'abord, nous ne considérons pas avoir des plates-bandes, ni, comme on le dit assez vulgairement, un fonds de commerce politique. Nous avons la volonté de vrai...
Alors, une idéologie, si vous préférez.
Une idéologie, certainement, encore que nous ne sommes pas prisonniers.
Nous ne sommes pas prisonniers de
cette idéologie, et nous savons aussi être extrêmement concrets lorsqu'il le faut. Mais, effectivement, nous sommes, je crois, le fil du nationalisme, de la lutte de libération nationale. Aujourd'hui, nous sommes partie prenante d'une majorité à l'égard de laquelle nous sommes parfaitement... loyaux, les choses sont claires. Il y a des nationalistes qui sont organisés en dehors de cette majorité, qui sont souvent très critiques et c'est tout à fait leur droit, c'est le droit que chacun leur reconnaît. Mais effectivement, il est tout à fait clair que en l'état actuel des choses, Corinne Front semble extrêmement loin de ce que fait notre majorité. Et notre majorité est solidaire autour d'un certain nombre d'axes, autour des fondamentaux du nationalisme, autour des fondamentaux de la justice sociale. Nous veillons à Corsica Libera, parce que nous avons une certaine légitimité pour le faire, compte tenu de notre historique, nous veillons à ce que ces fondamentaux soient respectés et mis en œuvre.
Qu'est-ce que ça veut dire tout ça pour, si on se projette dans les futures échéances électorales, les municipales? Il y a déjà des discussions qui sont en cours, certains voudraient qu'on aille à très vite, qu'on présente déjà des noms, des listes, vous en pensez quoi?
Alors, j'avoue que je suis beaucoup dans mes fonctions de président de l'Assemblée et beaucoup moins dans les discussions préélectorales, mais en revanche, les formations politiques, Corsica Libera, Fémagour, SIGA, le PNC, ont commencé à travailler sur, bien sûr, ces échéances. Bien entendu, je donnerai mon point de vue, je serai ponctuel s'agissant de telle ou telle commune, mais aujourd'hui, c'est vrai que mes fonctions sont assez éloignées de ce genre de préoccupations.
Voilà
mais
pour...
Oui, bien sûr, mais moi, la position de Cour SIGA Libera au seuil de ce, je dirais, de cette démarche des municipales, c'est de dire qu'il faut que Perragour, SIGA, que notre majorité aille le plus, dans le plus grand nombre de cas possible, unis, parce que ce sont des échéances qui vont être importantes.
Donc l'union partout, en tout cas.
Tout à fait, c'est la position, ça a toujours été d'ailleurs la position de notre de Cour SIGA Libera au sein de Perragour, SIGA. C'est vrai que dans certains cas, il a fallu insister pour que ce soit le cas, mais nous sommes véritablement attachés à cette union. Pourquoi ? Parce que cette union a fait naître, vous l'avez dit, un espoir très important en 2015 et puis en 2017, fin 2017, parce que cette union, elle est porteuse d'idéal pour un grand nombre de Corses. D'autres ne partagent pas nos orientations, mais c'est la démocratie, ils sont minoritaires, eh bien, ils ont le droit de critiquer et même demain de se présenter contre nous et d'essayer de gagner. Mais en attendant,
ce qui va se produire d'ailleurs.
Pardon ?
C'est sans doute ce qui va se produire d'ailleurs.
Ce qui va se produire, c'est-à-dire ?
Non, mais pour certaines formations politiques qui vont se présenter contre vous, je pense. Je pense que Corinne Front te présentera des.
Mais bien entendu.
Doute...
Mais ça, c'est la démocratie. Mais moi, je souhaite que le débat démocratique soit le plus riche possible. Il est à l'Assemblée de Corse, ce qui nous empêche pas d'ailleurs de trouver des points de jonction, y compris avec l'opposition sur des sujets importants comme les sujets sociaux. Notamment, vous avez tout à l'heure cité ceux que je porte en ce qui me concerne et qui ont fait souvent l'objet de l'unanimité de l'Assemblée de Corse, mais pas toujours. C'est vrai. Moi, je crois que la démocratie, c'est évidemment parfois difficile, c'est parfois long, mais c'est le seul système qui puisse, à un moment donné, permettre d'avancer. Donc, l'opposition s'oppose, elle a raison, à l'intérieur de l'Assemblée, à l'extérieur de l'Assemblée, et nous essayons d'avancer avec les difficultés qui sont les nôtres, mais aussi avec notre volonté politique et avec notre foi et notre amour de la Corse.
Ce sera le mot de la fin, Jean-Guy Talamone, car il est déjà 18h31. Merci, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation. Binti Minoud y revient, bien sûr, la semaine prochaine. Et ce sera cette fois avec Patrick Vinciguerre.